Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Dans le film Anatomie d'une chute, Sandra, une romancière allemande, est mise en accusation après que son mari est retrouvé mort au pied de leur chalet. Suicide ou homicide ? Ce que montre le film, c'est à quel point chaque personnage s'enferme dans la subjectivité de son propre point de vue. Et notre tendance à tous, à soutenir avec une certaine arrogance notre perception comme vérité absolue. Comme exemple de ça, il y a une scène où le psy du mari décédé est appelé à la barre. Et qu'il débite ce qu'il pense être de grande vérité sur la personnalité de Sandra, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée, qu'il ne lui a jamais parlé, et qu'il n'a jamais eu le point de vue que de son patient. Ce que le film montre aussi, c'est la rapidité avec laquelle on se forge des opinions, pourtant fragiles. La rapidité avec laquelle on érige des victimes et des monstres. Or, pour Milo, le fils de Sandra qui assiste au procès et qui doit savoir ce qu'il en est, pour le spectateur aussi, la seule exigence, c'est celle du vrai. C'est ce qui nous tient en tension pendant tout le film. Le public est laissé à son propre jugement, et c'est ce qui est inconfortable. Parce que le scénario nous empêche de nous enliser dans des certitudes hâtives. Dans cet épisode de Passage, un procès, différents points de vue, racontés par celui qui doit juger, au micro de Tiffaine Pioget. Je suis Louise Emerlé, bienvenue ton passage.
Nous, on sonne, il y a une sonnette, la présidente appuie sur la sonnette, l'huissier va donc annoncer la cour, et on rentre dans la salle. Les gens sont debout, ils nous attendent, en silence. La présidente s'assoit en premier, on s'assoit très rapidement derrière elle, le parquet s'assoit, et après, la présidente annonce que l'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, l'audience est ouverte, et les gens doivent s'asseoir. Il y a Steve Landlow, oui. On a bien compris que c'était ce jeune homme-là qui allait sûrement comparaître. Mais à ce moment-là, voilà, il n'est pas présenté. Il est avec sa famille, en l'occurrence sa maman. Ce jour-là, il est convoqué pour coups et blessures dans un espace clos, en l'occurrence une cour de récréation, sur un jeune homme de moins de 15 ans. Et les conséquences ont entraîné ce jeune homme à plus de 8 jours d'interruption temporaire de travail. Donc c'est lourd ce qui va se passer. Steve est un garçon qui renvoie une image d'un jeune un peu sportif, athlétique, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, bien à l'aise, alerte, bien grand, d'1m80, je pense. Voilà, un jeune de 14 ans et demi, plein de vie, plein de force, mais en colère. Mais vraiment, c'est marquant, en colère. La présidente l'appelle, il se présente à nous et il a une attitude agressive et une forme de colère. Pour lui, c'est injuste. Il n'a pas à être là aujourd'hui. C'est lui la victime. C'est lui. On a insulté sa mère, c'est pas à lui qu'on a jugé dans sa tête. De mémoire, il nous fait une phrase du genre « Mais vous êtes des fous, quoi. Vous êtes fous, les juges. » Et c'est là où la présidente est obligée de le cadrer. Hein. « Stop. Calmez-vous. » Elle s'adresse à l'avocat. « Maître, expliquer au jeune où il est, et je demande à ce jeune de retirer sa casquette, qui retire sa sacoche et qui retire les mains des poches. Souvent une attitude qu'on rencontre avec des jeunes devant nous. Je pense qu'il n'a pas compris pourquoi il est là. Je pense qu'il vient parce qu'il est convoqué. Peut-être que sa mère lui dit qu'il faut y aller, il n'y a pas le choix, mais il ne comprend pas l'enjeu de ce qui va se passer. Il ne comprend pas ce qu'il a fait réellement. Pour lui, il a eu une réaction spontanée liée à une agression qu'il aurait subie. Point. Et ça, pour lui, ça dépasse l'entendement de se dire que c'est lui qu'on va juger. C'est pas un jeune qui a déjà eu des affaires avec nous. C'est pas un jeune qui a un casier. Il n'y a rien. Première fois de sa vie qu'il rentre dans un tribunal. L'avocat, donc, qui va gérer le gamin, il est debout à côté du gamin. Et derrière, il y a une dame assise sur le deuxième banc. Pas le premier banc, juste derrière les avocats, juste derrière. La dame, c'est sa mère. Et l'autre personne, l'autre adulte, c'est un éducateur de la PJJ, protection de la jeunesse, justice jeunesse. Et personne d'autre à ce moment-là. Personne d'autre. C'est tout. C'est vide, hein. Donc, on demande à l'avocat de le calmer, la présidente le recadre les choses, et à ce moment-là, maintenant, on va rentrer dans l'histoire, dans l'affaire. Trois mois plus tôt, on est dans un contexte donc de rentrée scolaire, on est sur un début d'année, c'est la première journée où les enfants se retrouvent tous dans ce collège, et on est donc sur une grande cour de récréation, 15 minutes de récré, et on a ces trois jeunes de troisième, dont ce fameux Steve, au fond de la cour, tranquille, en train de parler. Deux qui ont adossé au mur du fond de la cour et une vision globale sur la cour de récré. Steve se retrouve donc face à ses amis avec lesquels il parle, dans la cour de récré, et il tourne le dos aux autres élèves de la cour de récré. Et d'un coup, il reçoit un coup violent dans le bas des jambes, il perd l'équilibre, il tombe en arrière, et en tombant, il entend cette fameuse phrase qui va être déclencheur ou enclencheur. C'est « ta mère la pute ». Et quand il tombe et qu'il entend « ta mère la pute », lui, il ne comprend pas ce qui s'est passé. D'abord, il tombe. Mais c'est les copains qui vont rajouter derrière, qui vont chauffer le copain. Ils disent « ah, ta mère, c'est une pute et tu te laisses faire ». Et quand il se relève, il est rouge de colère. C'est inacceptable. On me fait tomber moi. Il se retourne, il voit la personne qui l'a fait tomber et il ne lui laisse pas le temps de s'en expliquer. D'emblée, les coups vont tomber. Il se lève, les copains chauffent, les copains ne bougent pas, sont morts de rire, chauffent le garçon, il se retourne et il fracasse le môme qui aurait osé dire « ta mère la pute ». Et il y va comme un sourd, quoi. Je crois que la colère était plus forte que ce qui se passe. Et il va donc taper sur le thorax, sur la tête de l'enfant. Et après, il va finir l'enfant au sol, à coup de pied violent. Et puis après, le surveillant sépare ou intervient. L'enfant ne peut pas se relever. Les pompiers vont venir emmener l'enfant, bref. Et lui, il reste dans sa colère, quoi. Et donc, la présidente fait son travail, commence à poser quelques questions. Il nie en bloc le fait qu'il avait l'intention de faire plus de mal que ça, mais voulait juste, corriger ce garçon. On ne parle pas de sa mère comme ça. Hein. On ne le fait pas tomber impunément. Et d'un coup, la porte s'ouvre du tribunal au fond. Alors, moi, j'ai dans ma vision, je vois comme quelqu'un assis avec un pied qui... Quoi, un début de corps assis qui rentre dans la salle. Et l'huissier se lève et va vers les personnes. On doit vérifier qui rentre dans une audience mineure. Et moi, je vois rentrer dans la salle, au fond, là, dans ma vision, au fond, un enfant poussé par un adulte dans un fauteuil roulant. Et l'huissier se baisse pour contrôler qui êtes-vous. Êtes-vous dans la bonne salle? Pourquoi êtes-vous là? Et elle se retourne, l'huissier, elle se relève, se redresse plutôt. Elle me regarde et elle articule en me montrant du doigt l'enfant dans le fauteuil. C'est la victime. Et là, moi, je me penche calmement vers la présidente et je parle à voix basse, je dis « Madame la présidente, la victime est arrivée ». Et la présidente constate comme moi que l'enfant est en fauteuil roulant, même si nous, on le savait, qu'il avait des problèmes de déplacement. Il ne pouvait pas se déplacer autrement qu'en fauteuil. Nous pose la question à tous les deux, est-ce que vous voyez un inconvénient, je parle des deux assesseurs, que l'on change la donne, qu'on demande à Steve, on arrête les questions sur Steve pour le moment et on va faire venir directement la victime, parce qu'elle est Elle a l'air fatiguée, fragile, et déjà elle est venue, elle a fait l'effort de venir par rapport à sa situation de santé. Bon, on trouve ça, il n'y a pas de problème. Elle regarde le procureur sur son côté gauche, le procureur incline en disant oui. On va changer le procédé habituel, où on doit être d'abord dans le fond que le fond. On va exceptionnellement laisser venir la victime à la barre pour qu'elle s'exprime, quitte après à reprendre la suite des événements. Et donc, Léo est un petit bonhomme chétif, bon, qu'il est assis, donc je ne peux pas me rendre compte vraiment de la taille, mais je présume qu'il n'est pas très grand, assez malingre. Et ce qui me marque et me choque, c'est qu'il est très blanc. Blanc, ouais, un peu livide, mais peut-être l'appréhension, peut-être l'angoisse, mais peut-être aussi des problèmes de santé, de fragilité, je ne sais pas, mais voilà. Et un petit bonhomme, ouais. Son papa va le pousser et l'amener jusqu'à la barre, donc il ne peut pas se lever, il reste dans son fauteuil. Son fauteuil est collé à la barre d'audience, et le papa est derrière l'enfant. Cet enfant nous donne son nom et son prénom, nous donne son âge, donc voilà, on apprend qu'il a 11 ans, qu'il est élève de 6e, que c'était sa rentrée scolaire, comme Steve, c'était leur rentrée scolaire dans l'école. Et le jeudi matin où on va avoir cette violence dans la cour de récré, il nous le dit, c'est la première récréation qu'ils vont vivre, lui, son meilleur ami avec lequel il a grandi, son ami, ils se suivent ensemble, ils habitent dans le même quartier, je crois même le même immeuble, étaient en maternelle ensemble et ont fait un peu le début du cursus de l'école. Et la chance pour eux ou pas, en tout cas, ils se retrouvent tous les deux dans la même classe. Cette fameuse 6e-là. Et puis dans la 6e, ils ont retrouvé des copains de l'année dernière qui étaient en CM2 avec eux, 2-3 camarades. Voilà, donc ils se retrouvent un petit groupe qui se connaissent bien entre eux, qui se retrouvent, qui se rassurent peut-être aussi, et ils sont un peu, ça c'est mon interprétation à moi, mais un peu écrasés par la situation. Ces petits bonhommes-là, qui étaient les grands du CM2 de l'année dernière, en 6e, se retrouvent là, dans ce collège, avec tous ces élèves, des grands, des moins grands. Ça doit pas être évident, on a oublié nous quand on y était passé, mais on a dû vivre la même sensation. Alors on se regroupe avec ses amis et voilà, son meilleur ami propose, puisqu'ils ont un quart d'heure de récré, qu'ils sont bêtes, bah de refaire ce qu'ils faisaient en CM2, jouer à chat. Il voulait jouer à chat. Et le gamin va l'expliquer. Bah jouer à chat, mon pote avait décidé d'être le chat, on est les quatre autres copains, on va se cacher dans la cour de récré derrière des groupes d'élèves ou des arbres ou je ne sais quoi, pour ne pas être opéré, pour ne pas être touché, pour ne pas devenir chat. Et donc ce copain à lui va donc être le fameux chat. Lui, il nous explique qu'il se met à courir et à se cacher derrière un groupe d'élèves au fond de la cour. Ou quelque part, à quelques mètres de là, on a Steve qui parle à ses potes. Et on a, ce sont deux mondes qui vivent leur vie. On a ces grandes troisièmes qui sont dans leur monde de troisième et ce gamin qui joue à chat avec ses copains. Et quand son meilleur ami arrive vers lui, qu'il l'a repéré, parce que le garçon qui joue le chat, c'est un chasseur, il chasse les copains, le repère, bah, il fonce pour le toucher, pour voilà, c'est toi qui vas venir le chat. Et le môme nous explique que face à son copain qui arrive comme ça, comme en trombe, il prend peur, il ne veut pas être touché, il joue le jeu, il joue. Et donc, il va partir en courant en arrière, en marche arrière. On sent même quand il explique que la main va effleurer son bras ou son épaule, il veut esquiver et en esquivant, il perd l'équilibre. Et en tombant en arrière, il rencontre sûrement un obstacle dans son dos, mais lui ne sait pas quoi. Et en même temps, il crie à son copain. Et bien sûr, c'est pas, même la présidente lui dit, c'est pas bien heureux ce que vous avez dit. Mais bon, c'est mon ami, je parlais comme j'ai parlé. On va pas s'excuser. Hein. Et il dit à son ami, à son copain d'enfance, ta mère la pute. C'est-à-dire une forme de logorée, un peu comme ça, réactif, face à la situation, il a perdu, quoi. Il va devenir chat. C'est un jeu. Il joue, c'est des mômes. Et en tombant, donc, il fait tomber quelqu'un d'autre. Il prend même pas la mesure de ce qui s'est passé. Il tombe, c'est tout. Et il se relève rapidement. Lui, il n'a même pas conscience, quand il a dit « ta mère la pute », que l'autre a pu le prendre pour lui, le grand. Et ce môme, donc, qui est tombé, le Steve, là, le grand troisième qui tombe, qui lui entend dans son dos cela. Bah, il peut être persuadé peut-être qu'on a fait exprès de le faire tomber et qu'on a insulté. Je peux l'entendre, ça. Le problème, c'est pas que ça. C'est qu'il se relève, chauffé et en colère, et il lâche une violence terrible sur cet enfant. Il s'arrête même pas le fait que c'était un petit. On est là à écouter. Et peut-être qu'en l'expliquant, en nous l'expliquant, peut-être qu'il prend lui-même conscience. Il remet le film dans sa tête. On l'oblige à nous expliquer. Est-ce qu'en remettant le film dans sa tête, il comprend mieux? Et puis lui, il sait ce qu'il souffre, hein, parce que c'est son corps qui va prendre. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a même pas un tremblement de lèvres ou autre, il y a des larmes qui coulent. Et il ne parle plus. Et c'est là où la présidente demande à la personne qui le pousse de se présenter et de nous en dire plus. Là, ce monsieur se présente à nous. C'est là où j'ai bien la confirmation que c'est bien le papa et pas un aide-soignant ou autre présent. La présidente demande quelles sont les séquelles, quelles sont les après tous ces coups, votre enfant est en fauteuil roulant. Nous, on a le dossier médical, mais on voudrait vous entendre nous l'expliquer si vous le voulez bien. Sinon, la présidente pourrait le dire à voix haute, c'est pas un problème. C'est le papa qui accepte et qui explique que son fils, avec les coups qu'il a reçus, il lui aurait brisé la première vertèbre cervicale. Et il explique qu'il y avait un morceau d'os qui touche la moelle épinière. Et donc, ça rend le tronc, le haut du corps de l'enfant, paralysé. Et donc, il a perdu l'usage de ses membres supérieurs. Il ne peut plus donner l'ordre à ses bras et à ses mains de bouger. Et il rajoute, et aucun chirurgien ne veut intervenir, c'est trop compliqué ou trop dangereux, je ne sais pas le terme exact en tête. Donc déjà, et le papa continue en disant, la violence des coups dans le dos de son fils, peut-être la chute a peut-être aussi été un acteur supplémentaire, parce qu'il l'a fait chuter le garçon après lui avoir mis des coups au visage et au torse, il lui a dû lui faire une balayette, et l'enfant est donc tombé, et après il a continué à taper à coups de pied. Et on est affaire à une situation que le garçon lui a brisé les deux vertèbres lombaires. Et là, pareil, alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup, mon avis, de rééducation plus tard, mais pour le moment, l'enfant ne peut plus se lever, ni marcher, ni courir. Et le père nous dit, il est tétraplégique. C'est-à-dire que la violence de ce garçon a fait basculer mon fils dans un problème de santé grave, parce que mon fils a perdu l'usage de ses membres supérieurs et inférieurs. Nous, déjà, en tant qu'adultes, même si nous, on avait l'information dans le dossier, de l'entendre, de voir l'enfant devant nous, c'est violent. Mais je pense que c'est pas violent que pour nous, c'est violent pour celui qui vient de l'entendre, qui n'a pas pris le temps de vérifier avant l'affaire pourquoi il était convoqué et les conséquences de ses actes. Il le découvre, il l'entend. Et là, je pense que Steve, je pense qu'on n'a plus le même affaire au même garçon. Quand il encaisse l'information, il baisse la tête. Et là, il ne va plus relever la tête. On sent que là, il a pris un coup sur la tête lui-même, quelque part. Je pense qu'il prend conscience. D'abord, il a frappé pour rien. Et sa violence était tellement démultipliée que cet enfant de 11 ans qu'il a devant lui, qui est peut-être dans sa tête avant de venir l'ennemi à abattre, ben là, il a mis un enfant de 11 ans en fauteuil roulant pour perpète. Et là, voilà, on n'a plus du tout la même attitude. On a affaire à un jeune homme désemparé. En tout cas, dans son comportement, on sent que les bras sont baissés, il est atteint. Le côté fier à bras, j'ai raison d'être là, j'ai eu raison de faire ça, ben là, il y a le choc, quoi. Et en plus, je frappe quelqu'un, c'est un accident, il ne m'a pas fait tomber volontairement, il n'a jamais insulté ma mère. Pourquoi, quoi? Tout ça pour ça, quoi. Et avec les informations, d'entendre que ça a perpète le môme, hein, il ne va pas se relever demain. Je pense que là, il prend 10 ans de maturité en quelques minutes. Là. C'est comme ça que moi, je le ressens. Hein. Mais on va le comprendre après, parce qu'on va le reconvoquer à la barre. L'avocat... fait son rôle d'avocat, il revient à la barre avec son client, et là, Steve n'est plus du tout le même. C'était plus le jeune homme que j'ai vu, c'était un enfant qui reprenait la parole. Il s'est recroquevillé en ce qu'il était, hein, au fond de lui-même, parce que ce jeune homme de 14 ans, ça reste un enfant. il baisse la tête, il est mal à l'aise, il parle doucement aussi à ce moment-là. Je savais pas. Et pour lui, je savais pas ce que j'avais fait. Je suis pas conscient de tout ça. Même pas conscient que je l'ai mis au fauteuil roulant, quoi. Alors, on ne s'apesantit pas, on a compris, on a tous les éléments, mais on va quand même continuer le procès dans la logique des choses. Et à cette époque-là, on faisait beaucoup, ça faisait partie, parce qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué dans les tribunaux mineurs, mais au moment où nous, on vit cette affaire, on est dans la foulée, on va convoquer la maman ou le papa, ou les deux, s'il y avait les deux, en tout cas les représentants légaux du mineur, pour faire ce qu'on appelle la personnalité. On veut maintenant poser des questions sur l'homme ou l'être humain que l'on a devant nous. Qui est-il ? Et les seules personnes qui doivent répondre à cela, ce sont les gens qui l'accompagnent dans la vie. En l'occurrence, c'était sa maman. Cette maman est beaucoup plus petite que lui, que son fils. Une maman qui doit, je n'ai pas la notion réellement en détail, mais on va dire 1m60 et on a un garçon d'1m80. Chaque fois qu'elle parle à son fils, elle est obligée de lever la tête. Je ne sais pas, c'est comme un jeu, entre guillemets, de scène. Et lui, il a toujours la tête baissée. Donc, quand il répond à sa mère, il n'a qu'à tourner la tête pour répondre à sa mère. Mais il baisse la tête. Et les yeux. Et cette dame, elle vient, elle est à côté de lui. Et quand elle lève la tête, elle le regarde et elle lui pose la question simplement, à voix pas très haute. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi mon fils t'a fait ça? Lui, d'abord, il dit, pardon, maman. Et je voulais défendre ton honneur. Et elle le regarde et elle lui dit d'abord, pas de pardon à me proposer, il n'y a pas de pardon, je n'ai rien à te pardonner. Et avant qu'elle rentre plus dans le détail, elle lui dit, on parlera de l'honneur après. C'est ce qu'elle lui dit, on parlera de l'honneur après. D'abord, quel est le pouvoir de cet enfant en admettant qu'il m'aurait vraiment insulté? Quel pouvoir il a, ce garçon? Parce que même s'il m'avait dit les mots que tu lui reproches, est-ce que ces mots-là auraient changé ta mère? Et le gosse, Steve, il dit non. On a affaire à une discussion entre une mère et un fils qui fait abstraction du lieu. Et quand on est tous silencieux, que personne n'intervient, on bouge pas. Il n'y a même pas un d'entre nous qui a pris un stylo et noté, on est figé. Donc c'est un vrai silence. Et tu me parles d'honneur. Je vais t'expliquer, mon fils, c'est quoi l'honneur. La première chose que tu fais quand tu rentres dans ta chambre en hiver pour étudier, pour travailler sur ton bureau, tu fais quoi? Et le gamin ne comprend pas la question, nous-mêmes, moi-même en tout cas, je ne suis pas pour les collègues, mais moi, quoi elle parle? Et tu fais un geste simple. Ce petit geste que tu fais anodin, tu rentres dans ta chambre, tu fais quoi? Le gosse ne répond pas, ne comprend pas. Elle fait un geste avec la main, comme si quelqu'un, je sais pas, elle frottait dans le vide. Quoi. Pour moi, c'est dans le vide. Donc, elle fait le geste de la main qui va du haut vers le bas. Et elle fait, tu fais ça. Tu sais que je ne suis pas né en France. Je viens d'un pays étranger. Et en plus, dans mon pays, seuls les gens riches pouvaient aller à l'école. Pas nous. La vie a fait que j'ai pu venir en France. Et pour moi, la France, quoi. J'étais abasourdi de savoir que dans ce pays, on pouvait aller à l'école. Gratuitement. Quand je t'ai mis au monde, ton père m'a abandonné, t'as abandonné. Tu le sais, c'est notre histoire. On est seuls, on est tous les deux. J'ai pas de famille en France, c'est toi et moi. Et donc, très vite, il a fallu que je trouve des solutions. Je fais des ménages, je travaille. Et je ne te l'incombe pas, je ne te le reproche pas. C'est mon histoire et je me suis investi là-dedans pour que je puisse t'apporter ce que je n'avais pas moi dans mon enfance, dans mon histoire personnelle. On est donc suspendu au lever de cette dame. Et elle a cette main qui monte vers le plafond et qui redescend, mais brutalement, rapidement. Je crois qu'on est tous un peu... Bon, de quoi elle parle? Elle dit « Tu allumes la lumière ». Pour toi, c'est normal, tu fais même pas attention, c'est ton quotidien. Mais moi, c'est ma fierté. Le soir, quand je rentre et je te vois à la maison en train de travailler tes devoirs, quand tu allumes la lumière dans ta chambre, mon honneur, c'est que moi, je peux le payer, ce courant. Moi, mon honneur, c'est quand tu ouvres le frigidaire que tu ne manques de rien. Pour moi, c'est ça, l'honneur. L'honneur, c'est de t'amener le plus loin possible. Elle dit, voilà, ça la fierté pour moi. Ce que tu as fait, tu m'as déshonoré. On ne me parle pas d'honneur. Et elle se retourne vers la présidente de la séance et elle lui dit, madame, je n'ai que lui. Je l'aime, c'est mon fils. Mais je me remettrai entre votre décision de justice et je ne ferai pas appel de ce que vous déciderez. On finit l'audience. Donc on se retire pour délibérer. Et donc on va délibérer tous les trois. On est revenu avec une sanction lourde, parce qu'on l'incarcérera, ce gosse. L'acte est trop grave. La situation est... On ne peut pas ne pas prendre en compte les conséquences, les demandes et la réalité. Il part donc faire un certain temps d'emprisonnement et une période probatoire, on dit aujourd'hui, de sursis mis à l'épreuve. Pourquoi on décide de mettre des sursis mis à l'épreuve ? C'est parce qu'on va pouvoir garder un lien d'accompagnement à la sortie de l'emprisonnement par un éducateur ou par un service éducatif genre PJJ qui accompagne des jeunes qui ont été jugés et condamnés. Et on a mis aussi du soin, psy, et une obligation de réussite de travailler, d'aller à l'école, de faire une formation. C'est une manière de ne pas lâcher le môme. Et on pourrait imaginer que l'affaire s'arrête là. Quelques mois après, j'ai un appel d'un éducateur de la PJJ. Il m'explique pourquoi il m'appelle, qu'il est en lien avec l'affaire de Steve, qui était sorti au moment où il m'appelle de prison. Et il m'a dit, est-ce que vous auriez du temps pour rencontrer Steve ? Il voudrait vous rencontrer. Comment l'éducateur pense à me positionner pour la suite ? Pas par hasard. À cette époque-là, je commençais déjà à petite échelle à intervenir dans les écoles. À force de travailler dans les écoles, il me connaît, l'éduc. Je lui ai parlé, voilà ça, en gros, je lui ai parlé de votre action, c'est bien vous qui rentrez dans les écoles et qui créez la passerelle entre la justice et les mineurs dans les écoles. Je fais oui. Steve, je pense que ce serait intéressant que vous le rencontriez, et de lui-même est demandeur. Il faut qu'il vous explique ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est sorti. Steve a une idée en tête. Il veut réparer ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à se supporter lui-même. Au-delà de la peine qu'il a pris et de l'expérience dure, terrible, et ça, il me le dira, la prison, l'horreur pour lui. Et je le rencontre, on a un bureau ici que m'a mis en place la mission locale et la mairie de Sarcelles. Et donc, c'est vraiment un tout petit bureau, un peu à l'identique de cet espace-là. Très petit, pas de fenêtre. Et l'éducateur vient avec ce gamin. Et moi, dans ma tête, bien sûr, je le reconnais, mais je vois qu'il n'y a plus les mêmes stigmates que j'ai pu voir au début. On n'est plus dans du wesh. On n'est plus dans l'uniforme de ce qu'il voulait renvoyer au tout début, qu'il rassurait. On est un jeune homme, simple. Quand je dis simple, ça ne veut pas dire que la casquette ou autre ne rend pas plus... Mais on sent que... j'ai quitté un enfant et là, j'ai un adulte. Même s'il n'y a pas eu tant de temps d'écart. Forme de maturité. C'est comme ça que moi, je le ressens. Et il s'assoit dans le bureau, il me parle doucement, mais net, quoi. On n'est plus au procès, là, c'est fini, tout ça. Et honnêtement, ce qu'il va me dire, si l'éducateur n'est pas là pour attester quelque part tout ce qu'il se dit, c'est pas possible, c'est improbable. Ce qui va se passer là, c'est ce que je vais vivre les prochains jours qui vont arriver, c'est improbable. Je le reçois, je propose du café. Il ne boit pas de café, comme heureusement, les jeunes ne boivent pas de café. Moi, oui. L'éduc aussi. Et je lui dis, bon, pourquoi vous vouliez me voir ? Et il me dit, j'ai eu le temps de penser en cellule. Ce que je vais vous raconter, monsieur Aïs, pour moi, c'est important que vous l'expliquiez aux autres. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'autres comme moi ou comme Léo. J'en ai parlé beaucoup à maman au parloir. En expliquant que ce que j'ai fait est inacceptable. Et je n'endors pas, et je deviens... Ça m'obsède, ce que j'ai fait à ce garçon. Et il dit à sa mère, je voudrais faire quelque chose, je voudrais qu'on sorte de prison, je voudrais apporter quelque chose à ce gosse, à cet enfant, à ce garçon, que je ne connais pas. Et il en a parlé à son éducateur. Alors, souvent, ce qui est demandé par les éducs, ou les personnes qui accompagnent les jeunes, c'est de faire une lettre d'excuse. Mais lui, il va aller au-delà de cela. Pour lui, une lettre d'excuse, oui, il va la faire, cette lettre d'excuse, c'est pas un problème. Mais il va aller au-delà de l'excuse par papier. Et il s'est mis en tête, à ce moment-là, c'est ce qu'il m'explique, et il ne lâchera pas l'affaire. Je veux revoir Léo, si Léo veut bien me voir. Alors, combien de lettres il a envoyées? Comment il a fait pour arriver à ses fins, entre guillemets, à ce que Léo... Il ne demande pas de pardon, lui. Il veut juste faire une proposition, quelque chose qui, pour lui, l'obsède. Et il ne veut pas lâcher l'affaire. En tout cas, sa mère à lui et la mère du petit Léo ont créé un lien, une relation, une connaissance. Je ne sais pas comment ça s'est installé. Et Léo a accepté le fait de rencontrer Steve. Et donc voilà, il est en face de moi, j'écoute ce garçon, posé, calme, qui me explique, voilà, j'ai pu obtenir cette rencontre, et il fait une proposition à ce garçon. Quand je sortirai, ou quand je serai disponible, ou quand tu accepteras, je ne sais pas, j'aimerais apporter mes bras, mes jambes, me mettre à ta disposition les week-ends et les vacances scolaires, si tu es d'accord. Lui, parallèlement, demande à son éducateur de lui trouver un kinésithérapeute pour lui apprendre les gestes s'il doit accompagner physiquement un enfant handicapé. Et il va donc avoir des cours, ou je ne sais pas quel terme on a, en tout cas des séances avec un kiné qui va lui apprendre les gestes. Comment on met un enfant en fauteuil, comment on peut l'accompagner de fauteuil à un siège, je ne sais quoi autre. Et donc, il y a acceptation de Léo. Et donc, il passe ses week-ends, c'est ce qu'il m'explique, à être avec Léo, à s'occuper de Léo. On parle quand même du tortionnaire, quand même, qui a donc amené cet enfant en fauteuil roulant. Et quand je veux comprendre mieux, bah, je lui demande de m'expliquer. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit qu'il a eu un choc quand il rentre dans la chambre, à coucher du gamin. Il dit parce qu'en fin de compte, quand je rentre dans cette chambre d'enfant, et que je vois dans la chambre les posters des équipes de joueurs de foot, des équipes de France de football. Un texte écrit à la main, un texte d'un rap, ou d'un rappeur, que le gamin avait dû réécrire à l'époque, quand il pouvait écrire, qui était affiché au-dessus de son lit. Il prend conscience qu'il n'y a pas une réelle différence entre ce gosse et lui. Ils n'ont pas la même couleur de peau, ils n'ont pas le même âge, et ils n'ont même pas la même religion, c'est ce qu'il me dit. On n'a rien qui pourrait nous lier. Et quand je rentre dans sa chambre et que je prends conscience que ce gosse, ce qu'il aime, c'est la même chose que moi, ce que j'aime, en fin de compte, on se ressemble beaucoup plus qu'on imagine. En fin de compte, quand ma colère tombe sur ce garçon, c'est une colère que je retourne contre moi-même, quelque part. Parce que ce gosse que je frappe, ça aurait pu être moi. Je lui dis, mais tu peux me donner plus d'éléments, comment ça marche, comment ça se passe, comment le quotidien. Et il me dit, Donc, quand il est arrivé la première fois, c'est sa maman qui a accueilli, qui lui a expliqué le petit déjeuner, le petit prend du chocolat chaud, c'est ce qu'il m'explique, des cornflakes, bon, truc basique. Ils lui ont installé un matelas sous le lit du petit, la chambre, une chambre simple, un lit, un placard, et puis une petite une table qui sert de bureau, et une petite tablette sur laquelle il y a un écran et une console de jeu. Une petite console de jeu, et il voit que les jeux qu'il a, le gamin, c'est des jeux de foot. FIFA. Il me dit, tu fais quoi tes journées? On dit, le matin, je vais me lever, je vais préparer le petit déjeuner vite fait dans la cuisine ou dans la salle à manger. Je vais retourner dans la chambre. S'il est réveillé, je vais le mettre au fauteuil, je vais l'amener à la salle de bain, je vais faire ses ablutions. Je le regarde, je dis, comment ça? Dis non, je lui lave le visage, les mains, il ne peut rien faire, c'est pour ça que je suis là. Mais tout ce qui est intime, ce n'est pas moi qui gère. Toutes les parties intimes, c'est maman. Parce que c'est le week-end, il n'y a pas de... Si j'ai bien compris, grâce à lui, quelque part, la famille n'a pas eu... D'abord, la mère n'a pas apporté tout cela grâce à cette présence-là. Ils ne font pas venir de professionnels médicaux, d'assistants auxiliaires de vie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, il va vraiment essayer d'être à la hauteur de ce qu'il engage. Léo habite dans un quartier où il y a des tours. Ce sont des immeubles, quoi. Et en bas, il y a une espèce d'espace aménagé par la ville, on suppose, pour jouer au basket, au football. Et souvent, je descends, quand il fait beau, je descends en fauteuil, quand je fais descendre Léo en fauteuil, en bas, et il retrouve ses potes, mais ses potes ne savent pas qui je suis. Ils ne savent pas que c'est moi qui l'ai mis en fauteuil. Et il va jouer avec ses potes, moi je suis sur le côté, des fois ça m'arrive même de jouer au foot avec eux, voilà quoi. Mais Léo, lui, bon, bah, les potes, ce qu'ils font, bah, comme il ne peut pas jouer au foot à cause de moi, hein, c'est moi qui l'ai mis en cette situation, bah, ils vont le prendre, ils vont le faire rouler sur l'espace de jeu, ils vont rigoler avec lui, bon, ce sont ses copains du quartier. Et puis il n'est pas rare, l'après-midi ou autre, quand le temps est mauvais, on installe la console, et puis comme il ne peut plus jouer, il ne peut plus prendre les manettes, à cause qu'il a perdu l'usage de ses membres supérieurs, on va choisir ensemble les deux équipes qu'on va mettre l'une contre l'autre. L'un, ça sera l'ordinateur, l'autre, ça sera moi avec la manette. On coupe le son et c'est lui qui va faire les commentaires, par exemple. Et quand il me dit ça, je lui dis, mais même si j'ai bien sûr la réponse dans ma tête, j'ai bien compris, mais j'ai besoin de l'entendre. Je lui dis, mais pourquoi tu me racontes tout ça? Quel est l'intérêt? Quel est le but? Il me dit, bah, c'est pour que vous puissiez raconter ce que je viens de vous dire aux élèves. Je fais, oui, mais moi, le raconter, je peux le raconter. Moi, il me faut des autorisations quand même. Si demain, j'entre dans une école et que j'ai un élève qui vient me voir à la fin de séance écroulé en me disant « Mais de quoi vous vous mêlez? Vous parlez de l'histoire de mon cousin ou je ne sais quoi d'autre », que je sois en capacité de pouvoir dire « Oui, mais moi, j'ai les autorisations par les parents. Vous êtes des mineurs. » Et je dis, dans ces cas-là, il faut bien sûr que ta maman me donne une autorisation de parler de ce que tu m'as confié. Moi, je m'engagerai à ne pas trahir. Et idem pour Léo. Il faut que là, les parents me donnent l'autorisation. Et je dis, pour ça, il faut m'organiser une rencontre. Et puis honnêtement, même si l'éducateur me confirme tout ça, j'ai besoin quand même de pas prendre de risques. Il faut vérifier tout ça. Ce n'est pas tout de me raconter une histoire très intéressante et très émouvante. Mais alors. Et donc, le rendez-vous a été pris. Je me retrouve invité chez Léo. Je me rends sur place, je monte, je suis accueilli, un petit café, petit gâteau... Et en présence de la maman Léo, la maman de Steve et Steve. Mais arrive le moment, j'ai dit, écoutez, voilà, je vous ai amené des papiers. Moi, je suis prêt à témoigner de ce que vous m'avez transmis. Là, je m'adresse aux enfants. En tout cas, parce que Léo ne me transmet rien. Il m'accueille, il est gentil, il est souriant. Il me montre, je lui dis, comment ça se passe avec Steve? Ça va, vous entendez bien, ça va. Pas un enfant qui va dans une... pas expansif, on va dire. Quand j'ai fini et que j'obtiens le papier signé de la maman d'un côté, de l'autre maman pour chacun de ses enfants, je demande aux enfants de signer. Alors, le petit ne peut pas signer, mais ce qu'ils font, et ça, c'est Steve qui le fait. Il lui prend la main et il lui met le stylo dans la main. Et c'est Steve qui va faire une espèce de dessin, je ne sais pas quoi dire, comme si que le môme avait signé. Honnêtement, c'est dur pour moi, en tant qu'être humain, parce que je reste un être humain, j'ai envie de partir. C'est pesant, moralement, psychologiquement, je suis... Léo me dit merci, et je réponds pas. Merci, j'entends. Et avant de partir, je sais pas si c'est Léo qui dit à Steve, ou je sais pas comment, qui envoie l'info à l'autre. En tout cas, Steve me dit une dernière chose, mais c'est une toute dernière chose que je voudrais vous faire partager. Et je sais que Léo veut vous le faire partager aussi. Et c'est toujours Steve qui parle. Faites passer le message. Si vous réussissez ça, ah ben ça valait la peine de vous rencontrer. En gros, c'était... Allez. Et je lui dis, OK, tu as ma parole d'honneur que je ferai tout pour vous préserver, mais ma parole d'honneur que je ferai tout pour faire passer le message. C'est ce qu'on fait. Je forme les gens aussi pour raconter cette histoire. On a à peu près aujourd'hui, chaque semaine, mon équipe, je parle de semaine scolaire, on a chaque semaine, en parallèle, 3 à 4 établissements scolaires par jour. Les années ont passé, ces jeunes gens ont grandi. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus dans la réalité. J'espère qu'ils sont restés amis. J'espère qu'ils sont des adultes aujourd'hui, hein, largement. Peut-être qu'un jour, Jean le rencontrerai. Il viendra me voir, peut-être après une rencontre d'école ou autre. Il viendra me voir et il me dira « Je peux parler maintenant, peut-être ?» Mais il aura peut-être... Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'appartient sans m'appartenir. C'est-à-dire que je me sens légataire. Je ne sais pas si c'est le bon terme. J'essaye humainement de l'apporter. Mais de l'apporter pour faire... Je ne donne de leçons à personne. J'amène juste un pan humain d'un moment de notre vie, de ma vie. Le but, ce n'est pas faire pleurer dans la chaumière. Rien à faire de ça. C'est de les rendre plus forts. Écoutez-les, entendez-les.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Tiffany Pioget. La réalisation et le mix sont d'Alix Lachiver. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.